Matière à penser, Dominique Rousset.
Bonsoir à tous, c'est la suite de notre série Où va le travail. Deuxième volet, donc, pour Matière à penser, ce travail du 21e siècle est-il un miroir de nos sociétés autour du travail, de sa définition, de sa durée, de sa place dans nos vies, de ses transformations, très rapides comme on sait, et de son avenir. Et ce soir, avec notre invité, nous allons bien au-delà du simple sens économique, hein, au-delà de l'activité qui assure contre salaire la production de biens et de services. Nous partons d'une actualité, l'OIT, l'Organisation Internationale du Travail, a 100 ans. Elle a été créée en 1919, au lendemain de la Première Guerre mondiale, avec une idée forte, originale, et surtout pour l'époque. Son mandat, une paix durable et universelle, ne peut être fondée que sur la base de la justice sociale. Accent mis donc sur la Déclaration des droits de l'homme, et en témoignent les premières conventions sur des enjeux très cruciaux, comme la durée du travail dans l'industrie, le chômage, la protection de la maternité, le travail de nuit des femmes, l'âge minimum et le travail des enfants. Nous sommes en 1919, je le rappelle, pour ces premières conventions, beaucoup d'autres suivront. Et à la fin du XXe siècle, l'OIT lutte contre le travail forcé pour les droits des peuples autochtones, des travailleurs migrants ou des travailleurs domestiques. Enfin, elle propose un concept qui est objectif stratégique de son programme de développement durable à l'horizon 2030, la défense du travail décent. Car 100 ans plus tard, en dépit d'indéniables progrès sanitaires et sociaux dans le monde, bien des efforts restent à faire. Le constat est rude quand même devant les importantes transformations en cours, avec des chaînes d'approvisionnement plus complexes, des emplois plus précaires, une déréglementation du marché du travail en plein essor et autant de changements qui portent en eux des menaces de disqualification sociale, de déshumanisation, à moins de savoir les prévenir. Bonsoir Serge Podam.
Oui, bonsoir.
Et nous allons avoir tout de suite votre avis sur cette évolution de l'Organisation internationale du travail. Je vous présente auparavant directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales et directeur de recherche donc au CNRS. Et vous dirigez aussi le centre Maurice Halbwachs. Vous avez publié de très nombreux ouvrages collectifs ou personnels sur la pauvreté, sur la précarité, la solidarité. Et donc cette idée de disqualification sociale qui rejoint ces préoccupations de l'OIT. Vous êtes même un peu à l'origine de ce concept en France.
Oui, alors je l'utilisais au tout départ pour prendre en compte le processus de la nouvelle pauvreté, ce qu'on appelait à l'époque, dans les années 80, la nouvelle pauvreté, c'est-à-dire l'accès finalement aux services d'action sociale après un décrochage du monde du travail. Donc c'était vraiment le point sur lequel on était le plus attentif dans les années 80. C'était ce passage, cette disqualification sociale au sens où on devenait d'abord chômeur, on perdait ses droits et puis on se retrouvait sans rien, avec l'obligation donc de s'adresser au service d'action sociale pour obtenir de quoi vivre. Le RMI n'était pas encore inventé, c'est simplement le 1er décembre 1988 que cette loi a été votée. Et donc par la suite, j'ai repris le concept de disqualification sociale et j'ai essayé de le mettre à l'épreuve à partir d'une nouvelle enquête réalisée là dans le monde du travail, et ce qui a donné naissance à ce livre qui s'intitule « Le salarié de la précarité ».
2007, il est très actuel.
En fait, il est même sa première édition était de 2000 et donc l'enquête a été réalisée fin des années 90, donc à peu près 10 ans après mes premières recherches sur le processus de disqualification sociale, dans lequel je voyais plutôt les chômeurs de longue durée et les jeunes aussi qui s'adressaient de plus en plus aux services d'action sociale.
Ce que je disais sur l'Organisation internationale du travail, ce concept, donc cet objectif de défense du travail décent.
Alors, le travail décent, c'est quelque chose effectivement qui est un concept important, sachant que on s'est beaucoup battu pour la stabilité de l'emploi. Notamment face à la question du chômage de longue durée. Tout le monde, tous les acteurs du champ de l'insertion ont proclamé haut et fort qu'il fallait se battre sur le front de l'emploi, et on continue aujourd'hui de le faire. Mais la question que l'on doit aussi se poser, pour quel emploi et pour quel type de travail. Et donc, il est important, et je le voyais quand je faisais cette enquête auprès des salariés dans le monde des entreprises et aussi dans les organismes publics, je voyais effectivement la souffrance au travail. Pour quel travail, pour quel emploi? Et donc, il est important, effectivement, de mettre en avant que ce qui est recherché, c'est un travail qui apporte de la dignité, qui apporte des satisfactions au quotidien, qui permet à l'individu de se construire en tant que personne. Et c'est tout cela qu'il faut prendre en compte quand on met en place des politiques visant donc le retour à l'emploi. Le retour, oui, à l'emploi, mais le retour à un emploi décent.
Alors, le point de départ de notre entretien pourrait être la question du travail et du bien-être au travail. Juste deux chiffres, 12% aujourd'hui de notre vie serait consacrée en moyenne au travail. On reste ici sur les pays développés, mais on pourra éventuellement élargir. Il faut rappeler qu'il y a un siècle, c'était 40% pour la très grande majorité des travailleurs et des salariés. Mais une dimension très importante aujourd'hui, c'est la reconnaissance, vous venez de le dire, la satisfaction, le bien-être, l'importance de la qualité des conditions de travail. Et la question que l'on peut se poser, c'est le travail fait-il le bonheur? Ça n'est pas forcément la réponse de l'économie classique pour qui le travail était, c'est un néologisme, une désutilité, une activité nécessaire qu'il fallait bien supporter, une vision qui quand même devrait être remise en question aujourd'hui avec l'économie du bonheur notamment.
Oui, alors... C'est...
Vous avez suivi tout cela avec tout ce travail.
J'ai suivi tout ça.
On n'est plus dans « tu gagneras ton pain à la sueur de ton front ».
Alors, il y a trois dimensions qu'on peut prendre en compte quand on réfléchit en termes de satisfaction au travail. Le bonheur au travail, oui, mais sous quelle forme et qu'est-ce que l'on recherche? Alors, tout d'abord, dans le travail, il y a ce que les philosophes et les sociologues appellent le mot « faveur », c'est-à-dire se faire en faisant. On se réalise dans son œuvre. Quel que soit le type de travail, on apporte quelque chose qui a une valeur pour soi parce qu'elle permet de se réaliser. Ça, c'est la première dimension. Elle est bien sûr capitale, toujours. Et on essaye toujours d'améliorer ses qualifications, ses capacités pour faire et pour se faire en même temps. Mais bien sûr, la satisfaction au travail, c'est aussi la reconnaissance qui passe par la rémunération, par ce qu'on pourrait appeler relever donc de l'homo economicus, c'est-à-dire que c'est un échange. C'est un échange, je te donne mon travail, mais en revanche, je dois recevoir une valorisation en termes de salaire, en termes de rétribution, en termes d'avantages qui sont importants parce que justement, c'est le produit de cet échange. Et si la rémunération elle est insuffisante, elle ne peut pas procurer de la satisfaction. La reconnaissance passe par une juste rémunération. Et vous rappeliez tout à l'heure, quand vous parliez de l'OIT, que l'OIT, dès l'origine, a mis en avant la notion de justice sociale.
Absolument.
La justice sociale, c'est fondamental dans l'échange, justement, salarial. Et puis enfin, il y a une troisième dimension que l'on n'a finalement pas souvent pris en compte. On a souvent opposé homo faveur, homo economicus. Moi, quand je réalisais cette enquête auprès de salariés à la fin des années 90, dans cette grande enquête que j'avais menée, je voyais bien que la satisfaction aussi, c'était le travail dans des collectifs. C'est l'importance du regard que les autres porte sur la contribution de chacun. Le travail se réalise en équipe. Et Durkheim, dès le début, ce sociologue de la fin du 19e siècle, insistait sur la nécessité d'être intégré dans des groupes professionnels pour justement construire l'intégration. L'intégration passe par l'appartenance, l'attachement à un groupe professionnel. Et ça, c'est l'homo sociologicus, qui est vraiment très important. Quand vous travaillez dans un environnement de travail avec des collègues qui ne vous aiment pas, qui vous regardent à peine, vous ne pouvez pas éprouver de la satisfaction. Donc finalement, la satisfaction au travail, c'est une combinaison de ces trois dimensions, de l'homo faber, de l'homo economicus et de l'homo sociologicus. On a besoin de tout ça pour se réaliser. Et quand on a tout ça, on pourrait dire qu'on est assez heureux au travail.
Mais est-ce que les études, là, on citait l'économie du bonheur, qui a le vent en poupe en ce moment, on a des chercheurs en France, Claudia Sénic notamment, qui travaille là-dessus, Andrew Clark également, qui était aussi directeur de recherche au CNRS, mais leurs études tendent plutôt à démontrer, ce sont des économistes, là c'est le sociologue qui nous parle ce soir, tendent plutôt à démontrer que, certes, on peut souffrir dans le travail, mais ce qui fait surtout souffrir, c'est le chômage.
Oui, mais alors là, pour comprendre pourquoi le chômage fait
l'un
souffrir.
L'un n'exclut pas l'autre, bien entendu, mais je veux dire...
On ne peut pas faire l'économie d'une analyse du système normatif. Et donc, il faut bien rappeler que nous vivons dans une société qui s'est construite d'un point de vue salarial. D'ailleurs, on parle de société salariale pour bien montrer que le salariat a occupé une part très très importante dans l'organisation économique. C'est cette norme qui s'est progressivement imposée tout au long du XXe siècle et qui est devenue véritablement la plus élargie possible dans les Trente Glorieuses. C'est un contrat de travail qui permet une certaine durabilité de la relation d'emploi, qui permet aussi aux salariés de construire sa carrière en fonction d'un employeur et parfois un employeur unique, parce qu'on ne change pas d'emploi, on s'affirme dans son emploi et en même temps en fonction d'une norme de temps plein. Par conséquent, accéder à ce contrat à durée indéterminée, contrat de droit commun, c'est être dans les normes de cette société salariale. Et cette société salariale, il est vrai, protège les individus. Protège parce qu'elle ouvre à des protections en termes de protection sociale, mais aussi protège parce qu'il y a des conventions collectives qui ont été durement gagnées dans les négociations et dans les luttes autour du travail. Tout ça, ce sont des conquêtes. Les conventions collectives, ce sont des conquêtes. Et être au chômage, c'est perdre tout cela. C'est-à-dire s'écarter de ce contrat de droit commun et de cette référence qui fait de l'intégration professionnelle le socle finalement de l'intégration sociale, tout simplement.
Alors vous êtes sévère, Serge Pogard, je ne sais plus, est-ce que c'est dans le salariat de la précarité que j'ai lu cela? Le travail, certes, vous le dites, peut être vecteur de satisfaction et pour accomplir un peu des fins humaines. Pour autant, et je vous cite, ces vertus potentielles du travail, il ne faut pas oublier que les concepts marxistes d'exploitation, d'aliénation n'ont rien de suranné, elles restent encore actives. Et vous citez John Kay Galbraith, le grand économiste américain, qui disait en 2004, ça n'est pas si loin, « Le travail désigne à la fois l'obligation imposée aux uns et la source de prestige et de forte rémunération que désirent ardemment les autres ». Dont ils jouissent évidemment. Mais user du même mot pour les deux situations est un signe évident d'escroquerie. Je trouve cette phrase assez formidable, mais vous la prenez à votre compte volontiers.
Oui, parce que
vous n'aimez pas beaucoup le côté collaborateur de l'entrepreneur, etc.
C'est-à-dire qu'il faut quand même souligner que le monde du travail, c'est un monde aussi très inégal et qu'il y a encore aujourd'hui des rapports sociaux qui se manifestent dans le monde du travail et qui privent certains de nombreux avantages que j'ai cités là en termes de satisfaction au travail. Pour certains, le travail, c'est l'impossibilité de se réaliser soi-même, c'est l'impossibilité d'avoir un salaire décent, c'est la possibilité d'avoir des échanges avec des collègues construits parce que justement on est dans la précarité qui est généralisée. Et tout ça, il ne faut pas l'oublier. Quand on parle du bonheur au travail, c'est le bonheur des uns et c'est le malheur des autres, évidemment. On ne peut pas généraliser de cette façon-là.
Donc ça vous agace, par exemple, si l'on parle dans l'entreprise d'un lieu de médiation, que l'on parle d'un collaborateur ou que l'on parle de relations de gré à gré. Vous êtes un peu sévère avec ce type de formule?
Si on se met dans la peau d'un chef d'entreprise, il faut reconnaître que dans l'intérêt de l'entreprise, il faut qu'il y ait des relations apaisées. Il s'agit pas forcément de dire que ça va être toujours la guerre. Il y a des possibilités d'amélioration des conditions de travail réelles par la négociation. Mais pour qu'il puisse y avoir de la négociation, il faut qu'il y ait des corps intermédiaires, il faut qu'il y ait des syndicats, il faut qu'il y ait de la négociation. Cela est malheureusement pas toujours le cas. Il y a beaucoup de situations où les salariés sont un peu abandonnés et n'ont pas beaucoup les moyens de se défendre.
Les salariés en insertion, c'est aussi un des thèmes sur lesquels vous avez très largement travaillé. Je pense que ça mérite qu'on leur fasse une place, car ils sont nombreux dans notre société française. Et là, on va toucher évidemment aux politiques publiques.
Oui, alors quand je commençais ces recherches, on parlait déjà beaucoup de contrats aidés. Alors il y a eu un nombre impressionnant de sigles pour désigner tous ces contrats aidés qui relèvent de ce qu'on appelle aujourd'hui de l'insertion, c'est-à-dire que il s'agit de personnes qui sont éloignées du marché de l'emploi et qu'il s'agit d'accompagner par des contrats spécifiques qui enrichissent encore ou qui élargissent encore le spectre des formes particulières d'emploi. Donc, Donc, on pourra dire effectivement que c'est des formules, des dispositifs qui aident les personnes, mais qui, très souvent, ont démontré leur incapacité réelle à accompagner les personnes jusque l'emploi stable. C'est-à-dire que pour beaucoup de salariés en insertion, malheureusement, ces dispositifs ont eu un aspect positif, mais dans la courte durée. Et très souvent, après le dispositif, c'était le retour au chômage. Pour beaucoup, dans les trajectoires d'insertion, c'est ce qu'on a souvent remarqué. Et la pérennisation de ces situations d'instabilité et d'insertion a eu des effets négatifs à long terme, parce que un salarié en insertion qui commence à retrouver un intérêt à travailler et se sent reconnu progressivement, mais qui à partir d'un certain temps sait que de toute façon il y a des risques qu'il ne sera pas accompagné jusqu'à l'emploi stable et qui va se retrouver dans une situation qui est également très précaire, tout cela n'est pas satisfaisant. Il s'agit pas de dire que tout cela est inutile, tous ces emplois d'insertion, il s'agit pas de dire que tous ceux qui travaillent dans le domaine de l'insertion font du mauvais travail, mais ça veut dire qu'il y a un défi dans le domaine de l'insertion qui passe par des mesures certainement plus ambitieuses encore que tous ces dispositifs qui ont été des dispositifs mis en place en fonction de normes quantitatives. On va en placer tant et dans tel dispositif et pendant ce temps-là, ça va faire baisser les chiffres du chômage. Mais au fond, on n'a pas fait le travail permettant justement un véritable accompagnement jusqu'à l'emploi décent, jusqu'à l'emploi qui va permettre d'apporter toutes les satisfactions possibles aux salariés.
Quel type de mesures ? Vous en avez recommandé plusieurs dans vos travaux ?
Ce qu'il faudrait, c'est ce qui se fait d'ailleurs davantage dans les pays nordiques, dans les pays scandinaves, où on a un accompagnement dans la durée qui est couplé avec des séances de formation et avec l'idée qu'on ne peut pas répéter les mêmes dispositifs pour les mêmes personnes de façon incessante. C'est-à-dire qu'il y a un passage par ces dispositifs qui est un passage qui doit déboucher vers une consolidation. S'il n'y a pas ça, ça veut dire que ce n'est pas satisfaisant. On a une gestion assez bureaucratique, assez institutionnelle, assez liée à des mesures, un peu comme si c'était des dispositifs d'urgence qu'il fallait mettre en place pour dégonfler les chiffres du chômage. C'est pas suffisant, y compris pour les personnes, évidemment, et pour le chômage aussi, pour dégonfler les chiffres du chômage, il faut d'autres méthodes, en tout cas des méthodes plus ambitieuses.
France Culture, matière à penser, Dominique Rousset.
en compagnie de Serge Pogam, donc pour notre série de matières à penser autour de l'avenir du travail. Serge Pogam, directeur sociologue, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales et qui dirige aussi le très utile centre Maurice Albvax. Toutes les études d'ailleurs que nous mettrons en ligne sur ce centre. Serge Pogam, nous étions en train de parler de l'insertion et de la difficulté de s'insérer, une sorte de situation d'enfermement dans laquelle se trouvent souvent ces personnes. Et bien évidemment, les transformations du marché du travail auxquelles nous assistons, c'est-à-dire multiplication d'emplois courts, de précarisation, donc de formes différentes de désintégration aussi sociale parce que chacun se retrouve plus isolé dans son travail, ne va pas pour améliorer la situation.
C'est-à-dire que les personnes qui sont en insertion attendent aussi de se rapprocher de la norme sociale de la société salariale telle qu'elle a été construite, c'est-à-dire qui assure une certaine protection statutaire. Sauf que celle-ci est fragilisée, mais c'est pas parce qu'elle est fragilisée que la norme disparaît. Les personnes qui sont en insertion aspirent justement à cette valorisation de leur statut par le fait de décrocher enfin un CDI. D'ailleurs, quand ils sont en insertion, parfois, ils sont très très contents de pouvoir déjà décrocher un CDD pour décrocher ensuite un CDI. Donc, c'est un processus qui, pour beaucoup, est inachevé et par conséquent, source, pour certains en tout cas, de frustration.
Mais qui peut se comparer à la situation des chômeurs, en fait. C'est un cumul de handicaps qui ne permet pas de sortir.
Ça concerne beaucoup les chômeurs, puisque c'est la même expérience vécue. C'est le chômage qui est décliné sous la forme de ces dispositifs qui conduisent à sortir du chômage.
Et qui les prive de tout ce qui peut donner un sens au travail, la reconnaissance, la dignité.
Et oui. Alors, ce qu'il faut aussi quand même souligner, c'est que, bien sûr, il y a la protection statutaire qui s'est fragilisée pour des franges importantes de la population active, mais il faut aussi souligner, dans les grandes évolutions que l'on a pu mettre en avant et bien avoir en tête, depuis les années 80, on a des séries statistiques qui sont aujourd'hui disponibles, qui sont issues des enquêtes que l'on mène sur le travail et sur l'organisation du travail. On voit une augmentation de l'individualisation au travail, une augmentation de l'autonomie. Et tout ça, ça consacre d'une certaine manière un processus de reconnaissance collective affaibli. En fait, on voit que la proportion de salariés qui aujourd'hui n'ont pas de consignes, par exemple, qui sont donc dans un rapport plus autonome à ce qu'ils ont à faire, on pourrait dire d'une certaine manière que c'est positif. Et d'ailleurs, ça a augmenté de façon considérable ces dernières années. On est passé de 91 à 2013 environ 60% à 70% de personnes qui se considèrent aujourd'hui plus autonomes. Et c'est vrai, donc, quelles que soient les catégories socio-professionnelles.
Et beaucoup s'en trouvent très bien.
Sauf que quand on regarde comment cela fonctionne, c'est souvent parce que il s'agit de mieux impliquer les travailleurs dans leur travail. Ce sont des politiques de management qui ont été mises en place ces dernières années, qui encouragent l'initiative, l'innovation, l'autocontrôle et l'évaluation permanente. Et cela est aussi pour eux, en tout cas une partie des salariés, source de stress, source de difficultés de réaliser le travail qui est à réaliser dans de bonnes conditions. En fait, il y a une intensification du travail qui accompagne cette individualisation. Et qui dit intensification et individualisation, ça veut dire qu'il y en a qui réussissent potentiellement mieux et qui vont chercher à se distinguer davantage que les autres, si bien que le collectif lui-même s'affaiblit. Il y a de plus en plus de salariés qui ont le sentiment que leur rythme de travail dépend finalement de la demande extérieure parce qu'il y a une intensification ou alors parfois des normes de qualité qui sont aujourd'hui plus présentes et donc une difficulté à réaliser tout cela dans les temps qui sont exigés. Si bien que l'individu ressent plus de stress au travail et on le voit, alors tous les inspecteurs du travail pourront en témoigner, il y a des symptômes de dépression dans le monde du travail en raison de cela. Ça veut dire que les collectifs de travail, ce que le sociologue Durkheim disait à la fin du 19e siècle, qui sont essentiel, que le groupement professionnel est essentiel pour se sentir justement accompagné dans son travail, enrichi par les autres, en travaillant ensemble. Ce sont ces collectifs-là qui, par l'effet de ces politiques de management, se sont globalement affaiblis.
Et ça, c'est une tendance qui devrait durer, de votre point de vue, puisque nous parlons de l'avenir.
Encore que, il est quand même de plus en plus question aujourd'hui de favoriser le lien social dans l'entreprise, de retourner à des formes peut-être plus compatibles avec la recherche de complémentarité. La lutte contre tous dans l'entreprise, c'est mauvais en termes de résultats, de toute façon. Et donc, quand on va trop loin dans ce domaine, on crée du mal-être au travail, et donc cela n'est de toute façon pas satisfaisant. Mais en tout cas, les contraintes, les séries statistiques sur les pénibilités au travail, on voit qu'il y a de plus en plus de salariés qui aujourd'hui se sentent en souffrance du fait de ces pénibilités. Et c'est pas parce que les conditions de travail réelles, c'est pas parce que ce que l'on fait s'est dégradé, c'est parce que les conditions dans lesquelles on réalise tout cela, avec la pression qu'il y a en termes de temps, toute cette pression-là est plus forte aujourd'hui et cause tout ce malaise.
Ce que vous analysez aussi, on peut très bien d'ailleurs le comprendre et même le constater, c'est que cette forme de déqualification ou de stress au travail que vous décrivez se ressent évidemment dans les relations à l'extérieur du travail, les relations de couple, les relations familiales, les relations sociales.
Alors, ce qu'il faut voir, effectivement, c'est que d'un côté, vous avez ce déficit de protection pour certains salariés qui n'ont pas cette possibilité de se construire dans une carrière, d'avoir la possibilité d'avoir un contrat à durée indéterminée. Et puis de l'autre, cette pression au travail qui est souvent source de stress. Si bien qu'il y a des salariés qui sont insatisfaits et qui s'écartent finalement de ce qu'on pourrait appeler l'intégration assurée dans le travail, qui repose sur un besoin de protection et un besoin de reconnaissance. Nous avons tous besoin de protection dans son travail, de ne pas vivre dans le travail avec l'idée qu'on va perdre son emploi du jour au lendemain. Donc on a besoin effectivement de planifier un peu sa vie aussi, y compris sa vie en dehors du travail, bien entendu, et dans sa famille, dans ses projets, y compris immobiliers. Et on le sait que la protection de son emploi est capitale quand on veut accéder à une propriété par l'intermédiaire d'un prêt, parce qu'effectivement on est très souvent jugé insolvable quand on n'a pas ces garanties-là professionnelles. Tout cela crée de la frustration car quand on n'a pas cette protection et cette reconnaissance dans le monde du travail, on est effectivement dans un processus qui peut conduire à la disqualification sociale, y compris donc dans le monde du travail.
Vous êtes très pessimiste, Serge Pogam, ou en tout cas vous faites un tableau très sombre.
C'est peut-être
et depuis de nombreuses années, donc si l'on suit cette évolution et toutes les observations que vous avez faites sur la solidarité, sur la précarité, sur la pauvreté aussi, précarité et pauvreté, il faudrait distinguer les deux termes, vous ne voyez pas venir quand même les améliorations.
Alors, ce qu'il faut peut-être souligner, et donc vous dites que je suis pessimiste, en même temps j'essaye d'être quand même assez réaliste et de prendre en compte les évolutions dans leur globalité. Ce que je veux pas dire, c'est que le travail est un enfer pour tout le monde. Au contraire, il y a des personnes qui se réalisent parfaitement dans ce monde-là. Il faut pas l'oublier. Moi, j'insiste beaucoup sur les inégalités dans ce monde du travail. Il y a des personnes qui ne veulent pas partir à la retraite, qui veulent prolonger le plus longtemps possible leur vie professionnelle, parce que justement, ils se réalisent pleinement au travail. Et d'autres qui attendent, parce qu'ils souffrent au travail, qui attendent impatiemment le moment de la délivrance. C'est tout ça, le monde du travail. Mais ce que je vois aujourd'hui dans les nouvelles générations, c'est aussi une recherche de sens. Les jeunes générations, peut-être plus que les générations précédentes, cherchent un emploi qui a un sens pour l'humanité tout entière. Et c'est pour ça que être attentif à ce que produit l'entreprise en termes de qualité, en termes de respect des normes environnementales, en termes de recherche du bien-être, des productions utiles pour l'humanité tout entière, tout cela me semble être pris en compte par les nouvelles générations, plus qu'elles ne l'étaient par les générations précédentes. Et ça, c'est peut-être quelque chose qui est positif, c'est-à-dire qui va... Si ce sont des attentes qui sont partagées, ça veut dire que les entreprises vont être obligées aussi de s'adapter à cette exigence nouvelle en termes de normes à respecter quand on produit des biens et des services dans notre économie.
Oui, beaucoup de DRH, de directeurs de ressources humaines, constatent que lorsqu'ils proposent un entretien d'embauche à un jeune candidat, je parle là des jeunes générations, celles dont vous parlez aussi, elles mettent en avant la vie familiale, les vacances scolaires, et ça n'est pas un signe de paresse comme on a pu le penser un peu plus tôt.
Mais c'est un signe de recherche d'équilibre, d'harmonie dans sa vie. Ça ne veut pas dire qu'il y a un désintérêt pour le travail. Au contraire, surtout dans des sociétés comme les nôtres, le travail continue à être extrêmement valorisant, être au cœur de la vie de beaucoup de personnes et de jeunes, a fortiori. Mais ce n'est pas l'objectif final. C'est-à-dire que l'objectif final, c'est aussi d'être bien dans la vie, d'avoir une vie familiale épanouie et d'avoir la possibilité de loisirs, d'une vie associative riche, avec des engagements parfois militants, importants. Et donc, tout cela fait un tout. Mais il faut quand même souligner que tous ces avantages, toute cette vie familiale et cette vie associative et tous ces engagements sont d'autant plus réalisables que la personne a des garanties en termes de stabilité de l'emploi. On voit, on peut faire, il y a des corrélations qui sont frappantes entre l'intégration professionnelle assurée et qui procure de la protection et de la reconnaissance et les autres formes d'engagement. Et c'est donc aujourd'hui, dans ces aspirations, cette volonté d'atteindre cette intégration assurée, parce que c'est celle qui permet l'épanouissement total de l'individu. Alors ce que moi je dis, c'est qu'il n'y a aucune raison que cet épanouissement individuel en termes de protection et de reconnaissance soit le fait des plus qualifiés, des plus diplômés, mais qu'il faut...
Ce qui est le cas actuellement encore.
Ce qui est le cas actuellement, évidemment. Et donc ce qu'il faut, c'est avoir une vision globale du monde du travail et de rechercher par tous les moyens de faire reculer ces emplois qui sont insatisfaisants, de se battre un peu dans la perspective de l'OIT d'ailleurs, autour donc de la notion d'emploi décent et de possibilité justement de se valoriser dans le monde aujourd'hui en fonction de normes qui sont des normes éthiques, des normes de justice sociale, des normes de réduction des inégalités, des normes environnementales, etc.
Vous avez parlé de comparaison européenne, hein, ça fait partie des études que vous conduisez. L'instabilité de l'emploi s'accompagne pas toujours, on va peut-être rentrer un peu plus dans les détails, de mauvaises conditions de travail, et même plus généralement, s'accompagne pas toujours d'insatisfaction au travail. Alors, on peut être heureux dans l'instabilité à condition que l'État soit présent.
Y compris beaucoup de jeunes, et donc ça correspond davantage d'ailleurs à des jeunes qui sont qualifiés, qui sont à peu près assurés de leur qualification. Ça peut être une période de leur vie où ils acceptent une certaine instabilité professionnelle pour pouvoir se livrer à des expériences diverses dans la vie, y compris professionnelles, en prenant des risques, en allant travailler à l'étranger, et en étant donc assurés d'être pas engagés dans une carrière avec un objectif unique de se stabiliser dans le même type d'emploi toute la vie. Ça, c'est aussi quelque chose qui est possible, mais qui est d'autant plus possible que la personne au travail a des qualifications et des potentialités. Et pour moi, c'est pas ce que j'ai vu parmi les jeunes, par exemple, qui étaient très peu diplômés ou qui étaient décrochés du monde du travail. Parce que là, l'objectif, c'est plutôt d'accéder à un emploi le plus stable possible
et le plus sécurisé. Par exemple, on lit dans les études que vous avez faites autour des pays scandinaves, c'est vraiment l'autre extrémité de ce que vous venez de dire, que l'intégration disqualifiante, celle que vous appelez disqualifiante, que vous décrivez là, représente 13% hein, sur l'ensemble du modèle nordique, et même au Danemark
5%.
Comment y arrive-t-il? 68% sont dans ce que vous appelez l'intégration assurée.
Oui,
comment y sont-ils parvenus?
Ils y sont parvenus tout d'abord parce que ils ont des normes en termes de travail qui sont plus exigeantes que les nôtres. C'est-à-dire qu'ils combattent au quotidien tout ce qui ne permet pas à l'individu de se réaliser. Donc ils font la chasse aux travaux, à toutes les activités de travail, toutes les tâches à réaliser qui sont indécentes. Vous prenez...
Par exemple.
Un exemple très important que je cite souvent, le recours aux employés domestiques. C'est quelque chose qui, dans les pays nordiques, est politiquement assez incorrect. C'est que vous n'avez pas à employer quelqu'un pour faire le travail qui vous revient normalement et que vous ne voulez pas faire. Donc il y a cette exigence qui conduit finalement à se dire il faut trouver des emplois qui sont les mieux protégés, qui offrent le plus de possibilités d'émancipation, de valorisation. Et donc il y a une recherche vraiment systématique et accepté dans les négociations collectives de combattre toutes les formes d'aliénation au travail. Et ça, c'est une culture qui est répandu et qui permet de faire avancer la négociation salariale. Donc il y a ça déjà.
Il y a un haut niveau de protection sociale aussi.
Il y a un très haut niveau de protection sociale.
Oui, mais celui de la France est correct aussi. Alors pourquoi ne parlons-nous pas?
Oui, mais alors justement, alors c'est intéressant si vous prenez la question de la précarité. Il y a de la fluidité nécessaire, jugée nécessaire en tout cas dans ces pays nordiques aussi, une certaine fluidité du marché du travail. Mais alors ce qu'ils ont réussi dans les négociations, si on accepte ça, ça veut dire qu'il faut pas que les mêmes personnes soient toujours les mêmes dans les mêmes postes précaires. C'est-à-dire que on va accepter une certaine fluidité, une certaine précarité à condition qu'elle ne soit pas durable et qu'elle débouche sur une amélioration de la situation. Donc, il y a une prise en compte de la trajectoire professionnelle dans la durée, dans le cycle de vie. Et donc, on ne va pas exposer des personnes plus âgées à des emplois disqualifiants, même si on considère qu'on ne peut pas totalement les éviter, parce qu'il y en aura toujours un tout petit peu. Mais il faut les réduire le plus possible. Et c'est ça, me semble-t-il, la leçon aussi des pays nordiques. Et puis, c'est quand même aussi une capacité de négociation entre partenaires sociaux que nous n'avons pas. Il y a une proportion de syndiqués au Danemark qui atteint 80%
des négociations.
La négociation avec ce rapport de force, les entreprises sont obligées de négocier de toute façon. Alors qu'on n'est pas dans ce scénario là en France, même si quand même nos emplois en France continuent à être très fortement, même s'il y a une volonté de défaire, de détricoter ce processus, mais en tout cas nos emplois sont quand même continue à être fortement protégé par des conventions collectives.
Et pourtant, Serge Pogam, vous parlez de l'exemple du Danemark, hein, qui est tout à fait remarquable, et des pays nordiques en général, mais l'ensemble des sociétés d'Europe occidentale, si je ne me trompe pas, connaissent depuis une vingtaine d'années une augmentation très rapide de population assistée.
Quand qu'il faut peut-être faire...
En tout cas, tenu à distance d'un marché de l'emploi
Oui, avec des variations quand même considérables. D'un pays à l'autre.
Oui.
Le taux de chômage est quand même très différent d'un pays à l'autre. Mais je crois que la question essentielle, c'est de la sortie. Ce que l'on évite davantage dans les pays scandinaves, c'est l'ancienneté au chômage. On réduit cette ancienneté au chômage, on évite le chômage d'exclusion. Donc il y a un retour plus rapide par ces politiques d'insertion qui sont plus efficaces au marché de l'emploi et au marché de l'emploi qui permet aux individus de se réaliser et de se maintenir davantage en fonction d'une qualification qui a été reconnue.
Et de sortir de la pauvreté, qui est un autre de vos grands thèmes.
Oui, et de sortir comme cela, effectivement, de la pauvreté. Il faudrait aussi peut-être avoir quand vous parlez d'une vision de l'Europe, il faut aussi souligner que c'est la capacité aussi des pays du Nord de pouvoir avoir des emplois qui sont globalement plus qualifiés que certains emplois du sud de l'Europe. Et d'ailleurs, ça se voit dans la structure sociale. On a beaucoup plus de classes populaires en proportion dans les pays du sud de l'Europe que dans les pays du Nord. Dans les pays du Nord, on a beaucoup plus de classes moyennes qualifiées parce que justement tout le système de formation, tout le système de l'éducation conduit à l'égalité et à plus de justice sociale, l'égalité face au savoir, j'entends.
Terminons peut-être sur la question de la pauvreté. Vous avez publié un livre au titre très clair, « Ce que les riches pensent des pauvres ». C'est une enquête intéressante qui va nous permettre de quitter un peu les pays développés, puisque vous avez enquêté sur Paris en France, mais également à Delhi en Inde et à São Paulo au Brésil. Et en fait, ça rejoint beaucoup de ce que vous dites là sur la question de la reconnaissance ou de la peur de perdre la reconnaissance des autres dans l'attitude des riches.
L'attitude des riches, c'est
là,
effectivement...
On quitte un peu le monde du travail, mais c'est significatif.
C'est-à-dire que quand on prend effectivement des pays aussi différents de la France que le Brésil et l'Inde, où les inégalités sont beaucoup plus importantes, l'inégalité de revenus, mais les inégalités dans tous les domaines, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé, de l'accès à la culture. Donc on a des inégalités qui sont très très fortes, et les riches, quand il y a de telles inégalités, ont tendance à construire finalement des frontières entre leur quartier de résidence et les autres quartiers où vivent les autres couches de la population. Donc ce qu'on a appelé dans le livre, avec Bruno Cousin, Jules Naudet et Camilla Giorgetti, de construire des frontières morales. C'est ça aussi le risque, c'est-à-dire plus les inégalités augmentent, et c'est ce qui se produit aussi en France, plus les inégalités augmentent, augmente, plus la tendance des groupes sociaux à se protéger, à chercher finalement des solidarités dans l'entre-soi, sont beaucoup plus fréquentes.
Mais ce qui est frappant dans votre travail, dans cette enquête, oui, vous l'avez dit, vous êtes plusieurs auteurs, hein, vous avez rencontré donc ces riches dans ces trois pays. Ce qui est très frappant, c'est que finalement, c'est moins la détestation ou le mépris ou le dégoût, enfin je ne sais pas comment le dire, du pauvre de la part du riche que la peur d'être contaminé.
Alors, il y a les deux.
De lui ressembler un jour, de risquer de tomber.
En fait, les riches présentent parfois dans des termes très directs les aspects qu'ils voient indésirables chez les pauvres. Il y a l'idée de la dangerosité des pauvres, c'est l'idée des classes dangereuses, hein, qui est encore là très présente. Et donc, il faut se protéger de ces classes dangereuses, celles qui, d'ailleurs, sont le plus souvent employées dans des travaux extrêmement sous-rémunérés, parfois dans l'économie informelle. Et puis, il y a aussi la peur de la contamination, qui est quand même très très forte.
Oui, c'est ça, comme si on risquait un jour de leur ressembler.
C'est la contamination sur plusieurs plans, c'est la contamination bactérielle, hein, c'est-à-dire que les riches, dans certains cas, refusent de prendre les transports en commun parce qu'ils vont effectivement être en confrontation avec des pauvres et ils ne veulent pas toucher dans les lieux publics les bars ou les endroits où les pauvres se sont assis ou qu'ils ont touché, de peur d'être contaminés, où ils ont des gels antibactériens pour se protéger en permanence. C'est la contamination, mais c'est aussi la volonté de se distinguer socialement par un langage qui n'est pas celui des classes populaires, qui ne veulent pas que leurs enfants fréquentent effectivement d'autres catégories que les catégories de leur propre classe sociale.
Comment voyez-vous évoluer le travail, Serge Pogam, en conclusion? Écoute, en dépit de constats quand même assez
sombre, vous direz,
oui.
Vous diriez.
Oui, je dirais.
Écoutez, on a construit cette société salariale autour de l'idée d'une protection statutaire élargie, offrant donc des garanties de protection collective et d'accès à la protection sociale. On a construit aussi notre système de solidarité autour du principe de la protection et de l'implication dans le monde du travail, dans des groupements professionnels qui protègent. Donc on a de la protection et de la reconnaissance qui favorise l'intégration professionnelle. Ce modèle-là est en train de s'affaiblir, qu'on le veuille ou non. Il s'affaiblit et pour le moment, il n'est pas remplacé. C'est-à-dire que ça reste toujours la référence. Par conséquent, ça génère beaucoup de souffrance parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui ne peuvent pas atteindre dans leurs objectifs, les normes de cette société salariale qui est maintenant ancienne et qui est un modèle qui est toujours là, mais qui paraît inaccessible à beaucoup.
Eh bien, merci beaucoup pour tous ces éclairages, Serge Pogam, sur cet avenir très incertain du travail, si l'on vous a bien compris. C'était le point de vue du sociologue. Nous avons aussi entendu ceux des économistes et nous aurons un responsable syndical qui viendra également y réfléchir avec nous. Merci encore. On va se reporter
à
tous vos travaux. J'en ai cité plusieurs, un salarié de la précarité, donc réédité à plusieurs reprises et puis plus récent, donc ce que les riches pensent des pauvres. Mais il y a beaucoup d'autres travaux, y compris ceux que vous avez dirigés et que vous avez conduits avec d'autres collègues. Et merci à notre équipe de ce soir, Anne-Laure Chanel, pour la réalisation, assistée de Bastien Varigo et Sandrine Chaperon, Catherine Donnet pour la préparation, la documentation. Très bonne soirée à tous et à demain.